Morning Edition from NPR News.
Wenn Sie dies anbieten, der Haus.
France Inter, le 18-20.
Il y a du monde en ce moment, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le journal de 18h, il y a du monde devant la Cour suprême des États-Unis où les sages examinent donc une loi restrictive du Mississippi qui met à mal le droit à l'avortement. La décision, elle viendra plus tard, mais elle peut porter un très sévère coup de canif au droit à l'avortement très généralement aux États-Unis, et on y vient tout de suite. Le bruit du monde ce soir est à Kandahar, la ville la plus conservatrice de l'Afghanistan, où les habitants font ce qu'ils peuvent pour contourner, quand c'est possible, les lois établies par les talibans. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé un jeu vidéo très ciblé en Iran, une bataille de couscous entre l'Algérie et le Maroc, et le palmarès de la ville la plus chère du monde. 18h50, le cinéma en VO, et Alexis Demeyer avec La fièvre de Petrov, signé du metteur en scène russe Kirill Srebrennikov. Il est question de virus, tiens, ça nous changera. 18h55, le monde d'après, c'est Jean-Marc Four. Vous verrez comment, grâce à un sondage via Voice Radio France d'ailleurs, nous ne sommes pas si eurosceptiques que nous en avons l'air. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Anne-Désine.
Bonsoir.
Vous êtes professeure émérite à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes juriste américaniste et votre spécialité, ce sont les questions politiques et juridiques aux États-Unis. La Cour suprême, je le disais, se penche donc en ce moment sur cette loi souhaitée par le Mississippi qui réduit à 15 semaines le délai légal de l'avortement, alors que deux jurisprudences majeures aux États-Unis, Roe versus Wade d'abord en 73 et puis une autre en 92, ont fait du droit à l'avortement un droit constitutionnel. Le délai, il est de 24 semaines théoriquement. Mais le vrai souci, Anne-Désine, c'est pas vraiment les délais, c'est plutôt cette question qui sous-tend derrière. Est-ce qu'un État a le droit de déterminer par lui-même les contours constitutionnels qui ont été eux-mêmes confirmés des années auparavant par la même Cour suprême? Est-ce qu'il n'est pas là le nœud de ce problème?
Alors, on commence par le plus technique, mais pourquoi pas?
Allez-y.
Cette affaire, finalement, elle a aussi des points communs avec l'affaire du Texas, qui pourtant semblait très différente, puisque là, il s'agissait de savoir si la Cour suprême, et nous ne savons pas encore, allait accepter qu'un État, en confiant, en sous-traitant la mise en état d'une loi, échappe au recours classique que l'on peut faire devant les juridictions fédérales.
Et pour expliquer aux gens qui nous écoutent, au Texas, la loi qui est encore plus restrictive à 9 semaines, passée elle-même devant la Cour suprême, effectivement, le mois précédent, dit que si je suis chauffeur taxi, que j'emmène quelqu'un dans une clinique pour se faire avorter, si je suis le médecin encore plus, si je suis son frère ou son cousin, je suis responsable aussi.
Oui, je risque d'être condamné, de devoir payer 10 000 euros. Mmh. Et donc, ça incite les citoyens du Texas, n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quel comté, à devenir chasseurs de primes. Et donc, en fait, ce n'est pas tout à fait le même cas de figure. Ici, ça pose effectivement une question de fédéralisme. Et les conservateurs voudraient revenir à 1787, alors qu'entre-temps, il se trouve qu'il y a eu un amendement. En fait, il y en a eu trois après la guerre de sécession. Le 13e qui abolit l'esclavage et le 14e qui est au cœur de cette affaire, qui prévoit qu'aucun État ne peut priver une personne sans due process, c'est-à-dire sans une procédure, de la protection de la loi et de légale protection de la loi, et donc ne peut le priver de ce droit à la liberté, l'égalité, tout un tas de choses.
Ça veut dire que la loi est la même pour tous, si on résume le 14e amendement.
Oui, mais pour revenir à votre question, ça veut dire aussi que le gouvernement fédéral peut dire aux États, vous n'avez pas le droit de priver vos citoyens de votre État de droits constitutionnellement reconnus et protégés par nous, la Constitution, et par la Cour suprême.
C'est pour ça que je vous pose la question, parce que les semaines de délai, en soi, on se dit que c'est presque un détail, mais si la Cour suprême disait, oui, c'est vrai, vous avez le droit, qu'est-ce qui empêche un État de dire, ah ben, pour nous, ce sera 3 jours, ou une semaine? Et là, ça veut dire, de fait, que l'avortement n'existe plus aux États-Unis.
Voilà, et c'est exactement ce qu'on soulignait. Bon, l'audience vient de se terminer, j'ai pu l'écouter en venant ici, et donc, il y a eu 35 minutes pour le Texas, qui a essayé de défendre sa position peu défendable, que le précédent était nul et donc il fallait un revirement de jurisprudence. Et ensuite, l'avocat de la seule clinique qui reste dans le Mississippi et le gouvernement fédéral, représenté par sa Solicitor General, qui explique que stare decisis, ça fait partie des choses très importantes et que dans l'équilibre des pouvoirs, les États doivent obéir.
Pardon, allez-y, pardon.
Non.
Parce que la question que je me pose, c'est au fond, même la question avant, pourquoi est-ce qu'une loi de ce genre finit par arriver devant la Cour suprême à partir du moment où, de toute façon, constitutionnellement, on est censé être déjà cadré et borduré concernant notamment l'avortement. Donc comment se fait-il même que cette loi puisse aller vers la Cour suprême, sachant que de fait, elle est anticonstitutionnelle au moment où on se parle ?
Oui, j'entendais avant d'entrer ici, quelqu'un dire que c'est l'affaire la plus importante, ouais, en fait depuis 92, mm-hmm, depuis la réaffirmation du précédent Roe. Parce que d'abord, la Cour suprême a accepté peu d'affaires, et quand elle en a accepté deux, une en 2016 et 2020, c'était des lois qui réglementaient l'avortement, qui disaient il faut que les docteurs aient accès à un hôpital, etc. Là, c'est différent. Elle interdit l'avortement après une certaine date en violation directe du précédent. Alors pourquoi ? Ben tout simplement parce que les États, dont beaucoup, le Texas, le Mississippi, sont dirigés par des républicains, les républicains plus globalement, ils ont bien compris que grâce aux trois juges nommés par Trump, ce qu'ils attendent désespérément depuis 50 ans, c'est peut-être le moment. Donc en fait, et d'ailleurs c'est intéressant dans le cas du Mississippi, parce que ils ont voté leur loi. Donc les cliniques, les droits, les représentants des droits ont saisi une juridiction fédérale qui a dit « on suspend, c'est inconstitutionnel ». Le Mississippi a fait appel, la Cour d'appel a dit la même chose, on suspend. Et là, le Mississippi a demandé à la Cour de se saisir de l'affaire. La Cour n'est jamais obligée de prendre une affaire. Mm-hmm. C'est le mécanisme du writ of certiorari. Sauf que maintenant, il y a tellement de conservateurs qu'il y en a eu 4 qui se sont dit, bah là, on va essayer.
6 sur 9, hein, les conservateurs au sein de la Cour suprême.
Donc il y en a 4 sur les 6 qui ont dit, ça vaut la peine, on peut peut-être essayer enfin de revenir sur cette jurisprudence Roe et sur la jurisprudence Casey. Donc c'est ça la réponse, c'est-à-dire que le contexte a changé. Il y a maintenant tellement de conservateurs à la Cour que les républicains, les conservateurs se disent on va peut-être pouvoir faire évoluer les choses.
Est-ce que ça veut dire, on a toujours tendance à dire que les institutions aux États-Unis tiennent fermement, c'est ce qu'on avait dit après notamment le 6 janvier, on s'était dit bon ça au moins ça marche, et même à de multiples reprises précédentes, on se dit oui mais la Cour a ce rôle-là, ce sont des sages, donc elles ne mettent pas les pieds dans le marigot politique. Là vous êtes en train de nous dire au contraire, elles y vont droit devant, elles mettent les pieds vraiment dans ce marigot-là.
Alors ce qui s'est passé le 1er septembre, c'est très important. Parce que lorsque le Texas a voulu l'entrée en vigueur de sa loi, elle devait rentrer en vigueur le 1er septembre. Bon, évidemment, il fallait la bloquer. Et donc, il y a eu une procédure d'urgence devant la Cour suprême, qui aurait pu, non pas statuer au fond, mais suspendre l'application, suspendre l'entrée en vigueur, de façon à ce que les avortements ne s'arrêtent pas. Parce qu'actuellement, 95% des avortements sont finis. Absolument. Au Texas. Et donc, les femmes sont obligées de faire 500 kilomètres, etc. Mais la Cour suprême, dans sa grande sagesse, en plein milieu de la nuit, a rendu une opinion non motivée de 2 paragraphes en disant « Ouh là là, c'est compliqué, ça pose des nouvelles questions, donc on ne fait rien ». Elle aurait pu dire « C'est compliqué, je suspends l'application en attendant ». Et il y a eu un tel tollé que d'abord, elle était à 54% d'opinion favorable pendant l'été, elle est maintenant à 40%. Et je suis sûre que cette chute, c'est en grande partie due à son attitude le 1er septembre. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Lorsque ce sont des droits qu'elle n'aime pas, comme l'avortement, elle agit de la sorte. En revanche, quand il s'agit de protéger la liberté religieuse, pour que les églises soient ouvertes malgré le virus, etc., là, en plein milieu de la nuit, elle statue du côté de la liberté religieuse. Donc, en fait, il y a eu vraiment une prise de conscience de ce 2 poids, 2 mesures. Et là, la Cour se dit, il y a un problème. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a accepté d'ajouter au rôle l'affaire du Texas le mois dernier. Et là, j'entendais, durant l'audience, même les juges conservateurs étaient assez prudents. Bien sûr, ils ont essayé de mettre en difficulté les 2 avocates, celle de la clinique et celle du gouvernement Biden. Mais quand même, il y avait des bonnes questions sur assez spécieuses. Et si on devait revenir sur la viabilité, qu'est-ce que vous nous suggéreriez de mettre à la place? Et donc, défendez la règle de stare decisis, pourquoi vraiment on doit défendre ce précédent, etc., etc. Donc là, d'ailleurs, il y a aussi le juge Breyer qui a essayé de dire que ce n'était pas des politiques, la juge Barrett qui a donné des discours. Ils sont tellement inquiets, justement, d'être perçus comme partisans, même plus politiques, mais partisans, qu'ils essaient de dire partout « Non, 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 nous sommes des juristes intègres, on va statuer selon la règle de droit. »
Et c'est vrai que cette ligne est extrêmement fine. C'est à la fois intéressant et presque effrayant, en fait, ce que vous nous dites, Anne Désine. Ils regardent leurs sondages, les juges de la Cour suprême. Ça devrait quand même être les derniers à regarder ce genre de choses, théoriquement.
Alors, ils regardent aussi par la fenêtre tous les manifestants, les pour et les contre. Bien sûr, ce n'est pas une bonne chose. Quelque part, une juridiction suprême ne devrait pas regarder les sondages. Mais d'autre part, c'est inévitable parce que, ainsi que Hamilton l'avait dit dans les Federalist Papers, la Cour ne dispose ni de l'épée de l'exécutif, ni du porte-monnaie du législatif. Donc son seul pouvoir, c'est finalement d'inspirer confiance de façon à ce que l'opinion accepte ses décisions. Or, nous sommes à une période où il y a une large partie de l'opinion qui considère que les décisions qui sont rendues par ces juges conservateurs, poussés par les républicains de façon peu intègre, disons, ne représentent plus l'opinion publique aux États-Unis.
Ce qui est fou, c'est la difficulté à lire ces juges. Parfois, il y a ce que vous nous dites, effectivement, le fait qu'ils en profitent, puisqu'ils sont 6 sur 9 conservateurs, qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. Puis je pense à Ronny Coney Barrett, qui a remplacé
Ruth
Bader Ginsburg récemment. Donc, elle est conservatrice, qui est aussi celle qui dit non à l'abrogation d'Obamacare. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors que, pourquoi pas, c'était une occasion rêvée aussi pour les conservateurs. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier autour de l'avortement qui fait que, même auprès des juges, ce débat-là peut faire même vriller la Cour suprême ?
Oui et non. Il est clair que sur les juges conservateurs, 6 sont des extrémistes. Le juge Thomas, Alito et Gorsuch. Mmh. Eux, ils sont prêts à supprimer l'avortement et tous les droits, finalement, de la carte. Sauf le droit au port d'armes, bien sûr, et la liberté religieuse. Mais les droits qu'ils n'aiment pas, rayés de la carte. Les trois du milieu, le Chief Justice Roberts, Barrett, qui effectivement est anti-avortement.
Qui est une femme qui vient d'arriver, c'est celle
voilà,
dont on parlait.
Voilà, c'est la toute jeune, donc qui est à la cour pour 40 ans, dont on sait qu'elle est très catholique et très anti-avortement. Mais comme le Chief Justice, comme le président de la cour, et Kavanaugh, c'est le même, il est dans le même groupe. Eux, ils sont ce qu'on appelle des institutionnalistes, c'est-à-dire qu'ils ont compris que la Cour ne peut survivre que si elle jouit d'une certaine légitimité. Et donc, mais là aussi, ça veut dire que la politique est toujours tout près du droit. Ils vont essayer de faire en sorte que leur décision soit une sorte de compromis. Je ne sais pas, j'avoue que même après avoir écouté l'audience, je ne sais pas vers quoi on s'achemine. Mais qu'il n'y aura peut-être pas de revirement de jurisprudence, parce qu'ils sont convaincus que, comme l'avortement est soutenu par une majorité dans la population, pas l'avortement jusqu'à la fin, mais un certain droit à l'avortement, y compris chez les indépendants et chez les républicains, ce sera un tollé. Donc je sais que le Chief Justice en ce moment est en train de parler à ses petits camarades en leur disant « Attendez, on ne peut pas faire ça, sinon c'est notre rôle qui est détruit ». Et d'ailleurs, ça a été une des discussions. Il y en a qui ont dit « Mais voilà, avec cette politisation, est-ce que ce n'est pas le rôle de la Cour suprême qui est détruit ?» Ça fait partie de l'audience,
et
ça a été mentionné.
Et c'est vrai que c'est une vraie bonne question que celle-là, parce que là, on parle de l'avortement, mais qu'est-ce qui empêche après de toucher effectivement à d'autres droits fondamentaux dans les décisions à venir ? Et qu'est-ce qui empêche surtout qu'au fond, chacune des décisions désormais soit entachée de politique, si on va jusque-là.
Oui, alors là, il y a eu une partie très intéressante dans l'audience sur stare decisis, sur la règle du précédent. Le juge Breyer en a profité pour attaquer un petit peu l'avocat du Texas et aider les autres, en rappelant que dans la décision Casey, celle qui a confirmé le précédent Roe, il y avait toute une discussion.
Casey 1992, d'ailleurs celle qui a instauré le nombre de semaines, non
Alors, elle a instauré le critère qu'on utilise pour les réglementations, c'est-à-dire undue burden, le fardeau trop lourd.
C'est
si la réglementation fait un fardeau trop lourd pour la femme. Mais dans cette décision qui est très très longue...
Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, le fardeau trop lourd, ça veut dire que s'il devient trop difficile pour une femme d'accéder à l'avortement, alors on considère que la nouvelle loi, effectivement, est inconstitutionnelle.
Merci.
Voilà, je vous en prie.
Effectivement, oui, le undue burden, c'est classique aux États-Unis, c'est pas absolument intuitif. Donc, avec tout ça, j'ai perdu où j'allais.
Donc, on était en train de se dire qu'on risquait d'entacher toutes les décisions à venir dès lors que celles-ci pouvaient être aussi importantes.
Donc, le juge Breyer a pris la décision Casey, il a lu des morceaux en disant dans Casey, les juges, donc nos collègues d'il y a quelque temps, ont vraiment étudier s'il était une bonne idée de faire un revirement de jurisprudence. Et ils ont élaboré des conditions dans lesquelles il serait acceptable de faire un revirement de jurisprudence. Ça crée un préjudice. Et il n'y a aucune... Alors là aussi, un autre concept, j'aurais peut-être besoin de vous. Reliance. Les femmes ne comptent pas sur cette jurisprudence, ce qui est totalement faux. Il y avait une pétition amie de la Cour qui montre que les femmes comptent sur le droit à l'avortement, qu'elles en tiennent compte pour leur famille, leur carrière, etc. Donc, c'est faux. Mais les juges conservateurs, que ce soit dans l'affaire du Mississippi ou l'affaire du Texas, ils se rendent compte, et ils ont posé des questions dans les deux affaires dans ce sens, que si la Cour ouvre la porte, c'est peut-être aussi un danger pour le droit au port d'armes, la liberté religieuse. Mais il a aussi été question du mariage homosexuel. Alors, Kavanaugh a essayé de dire que le mariage homosexuel, c'était un revirement de jurisprudence. Et l'avocate s'est mal défendue. Alors Breyer est venu à son secours en disant « Mais non, 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 regardez là, dans Casey, Casey ne mentionne que deux précédents. Ceux-là ne sont pas des vrais précédents parce que les revirements ne remplissent pas les conditions et les critères qui sont explicités dans Casey. » C'est un peu compliqué.
Ce que ça veut dire effectivement derrière cette grande technicité, c'est qu'en effet, chacun est bien conscient qu'on peut ouvrir une boîte de Pandore qui sera une boîte de Pandore monumentale. Biden, après que Joe Biden, le président, après que la Cour suprême n'ait pas retoqué la loi texane, a parlé d'insulte à l'état de droit. Est-ce qu'on a déjà vu des relations aussi tendues entre la Cour et son président? Ça, c'est basique, normal?
Disons que le facteur déclenchant, c'est vraiment ce refus d'interdire l'entrée en vigueur de la loi le 1er septembre. Et c'est la raison pour laquelle l'administration Biden a porté l'affaire pour le Texas. Là, elle a une pétition à mis de la Cour et la Solicitor General avait un quart d'heure pour expliquer la position, justement. Et la position, là, c'est pas seulement le droit à l'avortement qui est important, liberté et tout, mais aussi, justement, l'équilibre des pouvoirs. Et le rôle de l'État fédéral.
Question passionnante et qui peuvent déterminer aussi de beaucoup de choses dans l'Amérique des mois prochains, au mois de juin, la décision. Si
oui, pas avant juin, voilà. Compte tenu de la difficulté, ils vont attendre juste avant de partir en vacances.
Eh ben, ils ont bien raison. Anne Desine, merci beaucoup. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le bruit du monde, la suite, c'est un retour en Afghanistan, à Kandahar, dans la ville la plus conservatrice du pays, où les talibans exercent leur loi, mais où les habitants, vous le verrez, savent parfois la contourner. Le bruit du monde, la suite, Sébastien Logeni, sous les radars.
L'Iran se lance dans le jeu vidéo politique pour dénoncer les violences policières aux États-Unis.
Et le cinéma en VO, bonsoir Alexis Demeyer.
Bonsoir, je vous emmène en Russie Fabienne pour La Fièvre de Petrov, l'excellent nouveau film de Kirill Serebrennikov, ce metteur en scène qui dérange fortement le Kremlin.
Le monde d'après, Jean-Marc Faure, bonsoir à vous Jean-Marc.
Bonsoir à tous, dans un mois tout juste Paris prend la présidence de l'Union Européenne et si les Français étaient moins eurosceptiques qu'ils ne le disent.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il passe par l'Australie, voici Courtney Barnett, Ray Street, et c'est sur France Inter.
Friends.
Le bruit du monde ce soir est à Kandahar, au cœur du territoire des talibans en Afghanistan. C'est en grande partie dans cette ville du sud-ouest du pays que les nouveaux maîtres du pays exercent désormais le pouvoir. C'est la ville la plus conservatrice du pays. Et pourtant, Kandahar ne s'est pas complètement plié aux nouvelles règles en vigueur. Les talibans ont bien du mal d'ailleurs à appliquer leurs préceptes à la lettre. Le reste, c'est Thibault Lefebvre qui raconte avec Arthur Gerbeau.
À la nuit tombée, il ne reste que des hommes dans les rues de Kandahar.
J'ai une femme ici, dans le coffre de la voiture.
Et c'est seulement dans les coffres, donc, des Saratcha, ces taxis jaunes de marque japonaise, que quelques femmes intégralement voilées apparaissent comme des ombres. Zargona est veuve, elle est sortie pour acheter des médicaments.
On est obligé de s'asseoir là. C'est pas cher et c'est une coutume de mettre les femmes dans le coffre. À cause des hommes, quand on est une femme seule, on doit être à l'arrière.
Et il n'y a pas que les femmes que les talibans veulent cacher. Dans les cellules sombres et humides de la prison de Sarposa, près d'un millier de consommateurs de Taliak, l'héroïne locale, sont enfermés pour être brutalement sevrés. Pas de traitement de substitution, un suivi médical sommaire et des douches froides pour faire passer les crises liées au manque. Selon les talibans, les toxicomanes décrochent au bout de 3 ou 4 mois et sont ensuite libérés. Lalay est un détenu modèle. Il a encore les lèvres tremblantes et par moments le regard qui se perd. Il témoigne sous le contrôle attentif de ses geôliers.
Une dizaine de jours après l'arrivée des talibans à Kandahar, nous, les drogués et tous les dealers, étions près du cimetière et du commissariat de police. Nous avons été attrapés et ils nous ont envoyés en prison. Les premiers jours, mon cœur battait très fort et je suis resté allongé, inerte, par terre, et je n'ai rien pu manger pendant 4 jours. Ils m'ont relâché bien après, mais je suis revenu ici de moi-même pour ne pas retomber dans la drogue.
Près de 80% de l'héroïne consommée dans le monde est aujourd'hui produite à partir de l'opium du sud-ouest de l'Afghanistan. Et la région de Kandahar vit depuis les années 80 de ce commerce juteux. Lors de leur premier passage au pouvoir, au milieu des années 90, les nouveaux maîtres de l'Afghanistan avaient détruit en seulement quelques mois les champs de pavots. Et selon le directeur adjoint de la prison, Mansouri Maoulavi Saeb, la même politique de fermeté devrait être mise en place dans les prochains mois.
C'est interdit de faire pousser l'opium pour le vendre aux Afghans ou pour le consommer car c'est dangereux. En revanche, c'est toléré pour fabriquer des médicaments. C'est la seule exception. Pour le reste, l'émirat islamique d'Afghanistan ne tolère pas ce type de culture. Il y a des prisonniers ici qui sont agriculteurs. Vous verrez que bientôt, ce sera complètement interdit.
Et pourtant, dans les champs qui entourent le village d'Ozemadad, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Kandahar, l'heure est aux semences et la récolte est prévue pour le printemps prochain.
Cet opium est devenu sec. Le noir, c'est l'original. L'opium a une odeur particulière. C'est un bon médicament contre la fièvre. On le met dans le thé ou on le fume.
Dans la main de Sadikoula, un bloc brun et résineux de près d'un kilo d'opium séché qui peut se vendre entre 70 et 100 euros. Selon l'agriculteur et son associé Aminoula, aucune autre culture ne permet aujourd'hui de gagner autant d'argent.
Quand les talibans sont arrivés, le prix de l'opium a augmenté et des contrebandiers sont revenus. Ce sont les contrebandiers qui dirigent les talibans.
Les talibans passent mais ils ne nous disent rien.
De toute façon, les talibans cultivent aussi l'opium.
C'est comme ça. Ils habitent dans les villages et il y a des agriculteurs parmi eux qui en produisent. Si vous trouvez un moyen pour remplacer nos cultures d'opium par des cultures de grenades, par exemple, on pourra arrêter.
La drogue, le sport et le travail pour les femmes, l'alcool, bien sûr, les interdits sont nombreux au pays des talibans, même si les autorités religieuses n'émettent pour le moment que des directives qui, selon elles, ne sont pas contraignantes. Alors, dans les rues de Kandahar, il y a encore des films et de la musique populaire. Mohamed tient un magasin sur une des artères les plus fréquentées de la ville.
Nous avons le droit d'écouter de la musique, en voiture par exemple, mais pas trop fort, sinon les talibans ne sont pas contents.
J'ai sous les yeux un film indien, Bollywood, avec une femme dont on voit le ventre. on a le droit de vendre ce type de film aujourd'hui ?
Les talibans sont venus et m'ont dit que je ne devais pas vendre ce genre de film. Je n'ai pas subi plus de pression que ça. Ce type d'interdiction, c'était avant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Et puis, ces films, c'est pour s'amuser. Je m'en fiche, je n'ai pas grand-chose d'autre dans ma vie. Non, je ne crois pas que les talibans vont pouvoir interdire la musique et les films.
La nouveauté dans les shops de Mohammad, c'est la musique religieuse, des disques de sourates, du Coran chantés par des voix modifiées avec des effets électroniques. Avant l'arrivée des talibans, ils avaient disparu des étals, mais aujourd'hui ces disques représentent la moitié des ventes du magasin.
Kandahar et ses arrangements avec la loi des talibans. Merci à Thibault Lefebvre et à Arthur Gerbeau. Le bruit du monde, la suite dans Un jour dans le monde. C'est l'actualité internationale passée sous les radars que Sébastien Logeny a déniché pour vous. Et Sébastien, nous sommes à Téhéran, l'Iran qui vient de lancer un jeu vidéo qui prend les États-Unis pour cible.
Le jeu en question, Fabienne, dévoilé par le régime iranien la semaine dernière, s'appelle « Défendre la liberté ». Le but est le suivant, sauver George Floyd de la police américaine. George Floyd, cet afro-américain dont on rappelle que dans la vie réelle, il a été tué à Minneapolis il y a un an et demi par le policier blanc Derek Chauvin, provoquant d'importantes émeutes raciales. Et bien dans ce jeu vidéo, Floyd est le héros et doit surmonter toutes sortes d'obstacles afin de sauver sa vie. Les arrière-pensées politiques ici sont évidentes. Montrer aux Iraniens que les États-Unis sont loin d'être la démocratie qu'ils prétendent être. À l'époque de l'affaire, d'ailleurs, le régime de Téhéran ne s'était pas privé de condamner les violences policières outre-Atlantique. Le régime des Mollahs espère faire de ce jeu un outil de soft power, d'influence culturelle auprès de la jeunesse populaire iranienne qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Le concept a été élaboré en haut lieu directement par le Basij, une force paramilitaire chargée de mater toute contestation et qui recrute surtout parmi les jeunes. Celui qu'on entend là, c'est l'un des chefs du Basij, le très redouté Mohamed Reza Naqdi, qui a fait du combat culturel en ligne contre Washington une nouvelle stratégie. Une stratégie qui ne manque pas de piquant quand on sait que l'Iran n'a jamais cessé de réprimer ces dernières années tout mouvement d'opposition, avec notamment ces derniers jours une mise au pas brutale des manifestations massives à Isfahan. On en a parlé ici la semaine dernière, où les agriculteurs se plaignent de la sécheresse.
Les tensions entre le Maroc et l'Algérie viennent de prendre un aspect très inattendu, celui d'une bataille autour du couscous.
Les deux frères ennemis du Maghreb ont rompu leurs relations diplomatiques il y a déjà plusieurs semaines, on le sait, mais la dernière initiative du Royaume-Uni chérifien ne risque pas d'arranger les choses. Le ministre marocain de la Culture vient en effet de demander la création d'un label spécifique pour inscrire le couscous marocain comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'idée, explique le ministre, est de créer un label Maroc spécifique, donc pour mettre fin au débat sur la question de savoir si le couscous est marocain ou tunisien. Le ministre qui évite soigneusement de parler au passage du couscous algérien, une démarche qui suscite des critiques dans toute la région, d'autant que il y a moins d'un an, en décembre 2020, tous les pays du Maghreb avaient réussi à faire front commun à l'UNESCO pour obtenir que le couscous soit inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Telles des perles de pluie, ces granules de semoule fines et rondes.
Voilà, c'est un extrait de cette candidature unique présentée à l'époque aux Nations Unies. Un moment rare d'unanimité entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie. Depuis, la politique a donc repris le dessus, mais aucune chance que l'UNESCO ne revienne sur sa décision. Le couscous n'appartient à personne et c'est bien un plat commun à tout le Maghreb.
Voilà, bravo. il y a plus cher, Sébastien, que Paris, que New York, il y a Tel Aviv.
Tel Aviv, la ville la plus chère au monde, en effet, selon l'étude annuelle du journal The Economist, qui compare les prix de 200 produits et services dans les villes du monde entier. C'est la première fois que Tel Aviv décroche ce titre, assez peu envié, il faut le dire. La capitale économique israélienne, plus chère que Paris, donc la capitale française, que Singapour, que Zurich ou Hong Kong, régulièrement pourtant sur les podiums. Principale explication, la hausse du shekel par rapport au dollar et d'une manière générale à cause des soucis d'approvisionnement dans le monde. Une hausse des prix qui pèse très lourd dans le panier des consommateurs israéliens. Hausse du coût des transports à cause des prix de l'essence, hausse du prix de l'alcool, du tabac, des divertissements, une situation qui rappelle de mauvais souvenirs dans le pays. qu'on entend là, ce sont les manifestations en 2011 en plein centre de Tel Aviv. C'était il y a 10 ans les plus grosses manifestations de l'histoire du pays contre la vie chère. À l'époque, c'était les loyers qui flambaient. Les étudiants israéliens avaient alors quitté le pays par centaines.
Sébastien Le Génie, sous les radars, c'est tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, à demain. Sébastien, vous partez avec Raphaël Galadzi qui pose cette question essentielle. Es-tu chaud ou es-tu ? Bah, en juillet peut-être.
Estate non si riesce a far più niente che morire sotto il sole tra le gabole e la gente e non so più dove andare ma non voglio questa gente. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Mi rinfranco, faccio un bagno dentro il sole, gioco a scopa nelle scuole vuote come un capannone, mi distendo sopra un pianoforte sciolto e mi chiedo dove sei, dove sei, dove sei, dove sei. Ah, che bella questa estate, questa gente, tutta immagine e poi niente, e nessuno vuole dirmi dove sei. Faccio stragi ma se passo da perdente, prima o poi la stessa gente mi telefona e mi dice dove sei. Sono stanco delle mie stesse parole, qui si fanno solo prove, non si sa chi diventare, per fortuna che ti ho visto, per fortuna almeno tu sei come sei, come sei, come sei, come sei. Questa estate, questa gente non mi portano più a niente, ma che importa se mi dici dove sei. Pensa un po' che mi travesto la pezzente, sparo lacrime abbronzanti e le vendo per scoprire dove sei. Far più niente, qui si muore con la gente che non sa cosa vuol dire insieme a te. Ti ho trovata sopra un panfilo lucente, l'ammiraglio inconcludente, ma che importa se tu sei vicino a me.
Et on est pour, définitivement, dans Un jour dans le monde. Raphaël Galadzi, était chaud, où es-tu ? Ben pas forcément en Russie, et quoique, d'ailleurs après tout, c'est là que nous allons avec le cinéma en VO et Alexis de Meyer.
France Inter, Un jour dans le monde.
Ça touche beaucoup dans cet extrait de La fièvre de Petrov à l'affiche ce mercredi. Alexis, c'est l'histoire tortueuse d'un homme contaminé par un virus qui déambule comme un zombie dans une rue fantomatique. Un film présenté à Cannes en compétition en l'absence de Kirill Srebrennikov, son réalisateur, puisqu'il n'a pas le droit de quitter la Russie. C'est une condamnation d'ailleurs, Alexis, très controversée.
Oui, Srebrennikov purge une peine de 3 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics. Mais le procès l'an dernier de cet opposant à Poutine a tourné à la parodie, entraînant de vives protestations intellectuelles et diplomatiques. Alors, comme ce fut déjà le cas lors de la présentation à Cannes de son précédent film, L'Étau, le fauteuil du cinéaste est resté symboliquement vide en juillet dernier dans le Palais des Festivals, ce qui n'a pas empêché la fièvre de Petrov de contaminer les festivaliers grâce à sa formidable puissance artistique. Srebrennikov filme un pays malade, sans espoir, ravagé par la corruption, la violence, la misogynie. Mais cette grippe très contagieuse procure aux personnages des délires, des hallucinations qui leur permettent de s'évader, d'entrer dans une nouvelle dimension où leurs frustrations peuvent enfin s'exprimer librement. Un scénario scénario qui fait bien sûr écho au coronavirus, comme nous le confirme Kirill Serebrennikov.
Aujourd'hui, quand je regarde ces personnages fiévreux, en train de tousser, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi ils ne portent pas de masque? Mais je vous assure, on a commencé ce projet bien avant la pandémie, bien avant la crise du Covid. Ce que je voulais avec ce film, c'était montrer les délires que la fièvre peut entraîner. Et puis, mon scénario est une adaptation du livre d'Alexei Salnikov qui date de 2016. Mais, bien sûr, comme c'est toujours le cas avec la littérature russe, ça devient une prophétie.
Ah ouais, ce projet éminemment dostoïevskien entremêle satire sociale, film d'horreur, épopée spatiale et même hommage aux comics américains.
Et aussi, la fièvre de Petrov, Alexis, se déroule la nuit principalement.
Oui, ce qui convient très bien, il est vrai, à cette évocation d'une Russie crépusculaire, mais si Serebrennikov a tourné à la nuit tombée, c'est tout simplement parce qu'il n'avait pas le choix.
On tournait la nuit parce que pendant la journée, j'étais au tribunal et je devais gérer tout ce que mon affaire impliquait comme obligation. C'est pour cette raison que j'ai demandé à mes acteurs, à mes amis, à mon équipe, d'avoir un rythme de travail principalement nocturne. C'était des conditions de tournage certes difficiles, mais je dirais aussi intéressantes. Et ça a sans doute donné au film une dimension essentielle. Et puis, je me sentais tellement mieux que pendant la journée, je retrouvais une vie normale. En fait, le tournage me procurait un effet similaire aux pilules que prennent les personnages dans le film. Ces pilules sauvent leur vie en la reprogrammant. Et c'était la même chose avec ce travail.
En effet, on sent bien que Serebrennikov a pris du plaisir, tant sa mise en scène est inspirée, les impressionnants plans séquences et les étourdissants mouvements de caméra pimentent un peu plus encore ce film engagé, aux métaphores particulièrement malines. En attendant un heureux dénouement à ses ennuis judiciaires, Kirill Serebrennikov continue de travailler jour et nuit. Actuellement, il coordonne à distance son adaptation pour le théâtre Thalia de Hambourg du Moine Noir, une nouvelle signée de Tchekhov dans laquelle un intellectuel russe est pris d'hallucinations et finit par devenir fou.
Alexis Demeyer pour le Ciné en VO. Merci beaucoup Alexis.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, dans un mois pile, la France prendra la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Dans ce contexte, paraissent 2 enquêtes sur la relation des Français à l'Europe. L'une de Via Voice pour Radio France et France Télévisions, l'autre de Kantar pour l'Institut Jacques Delors. Et il y apparaît un fort sentiment eurosceptique en France. Mais pour vous, ce n'est qu'une apparence. Les Français sont plus pro-européens qu'ils ne le disent. Et c'est votre monde d'après.
Oui, alors c'est vrai qu'à première vue, pour les Français, hein, Bruxelles, c'est pas le Pérou. Nous sommes seulement 36%, à peine plus du tiers d'entre nous, à avoir confiance dans les institutions européennes. Conclusion de l'enquête Kantar pour l'Institut Delors. Ce niveau est l'un des plus bas de l'Union européenne. Les Français sont eurosceptiques comme les Grecs ou les Néerlandais. Le niveau moyen d'adhésion au sein des pays de l'Union se situe beaucoup plus haut, vers 50%, et il dépasse même 70% en Irlande ou au Portugal. Les Français, si l'on en croit cette étude, jugent majoritairement l'Union européenne inefficace et distante. Là encore, une défiance très supérieure à la moyenne chez nos voisins. L'enquête de l'Institut Via Voice pour Radio France et l'audiovisuel public montre que nous sommes également très dubitatifs sur la capacité européenne à améliorer nos conditions de vie ou de travail. Alors cet euroscepticisme, on le sait, est particulièrement fort dans les villes moyennes, les campagnes, parmi les retraités, les ouvriers, les chômeurs, des classes populaires qui se sentent déclassées et abandonnées. Elles voient l'Europe au mieux comme un bouclier de protection insuffisant, au pire comme le bras armé d'une mondialisation destructrice. L'euroscepticisme est donc très implanté en France. Ce n'est pas un atout pour la présidence française de l'Union dans un mois.
Mais pourtant, vous avez des doutes sur la réalité de cet euroscepticisme. Alors expliquez-nous ça.
C'est-à-dire que cette relation des Français à l'Europe est plus ambivalente, plus ambiguë qu'ils ne le disent. C'est tout le mérite de ces 2 enquêtes de mettre ce phénomène en évidence. Bon, d'abord, il y a de vraies différences selon les milieux sociaux, j'y reviens pas. Mais même si on prend la population française dans son ensemble, l'adhésion à l'Union européenne est très forte sur certains points précis. Par exemple, sur l'euro, les 2/3 des Français ne veulent surtout pas l'abandonner. Et plus globalement, nous sommes entre 65 et 75% à vouloir rester dans l'Union. L'Europe est donc perçue comme un échelon indispensable, un mal nécessaire, diraient les plus critiques, pour peser dans les affaires du monde. Et les Français y voient par exemple un outil pour lutter contre les défis sanitaires et environnementaux. Nous sommes 73% à souhaiter une politique énergétique européenne commune, 68% en faveur d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe, et même 63% favorables à une armée européenne commune, c'est énorme. Bref, il y a une aspiration à ce que l'Europe développe sa puissance politique et stratégique pour mieux nous protéger. Et alors là, pour le coup, ça tombe pile poil dans l'agenda d'Emmanuel Macron. C'est exactement ce que prône le président français depuis des mois. Une union plus forte politiquement, avec notamment une Europe de la défense. Donc vous voyez toute l'ambivalence des Français à la fois eurosceptiques et pardonnez-moi le néologisme, euro-désireux.
Mais alors qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir de cette relation ambiguë ?
Alors pour répondre, il faut regarder un troisième rapport qui a été remis hier au secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément. Il vise à orienter la présidence française de l'Union dans un mois. Rappelons que ça n'arrive quand même qu'une fois tous les 13 ans. La première idée, c'est de privilégier les gestes concrets sur les grands discours. Oui, c'est QFD. Les Français attendent de l'Europe des actes précis, fournir des vaccins, garantir une réassurance chômage pour les jeunes, coordonner la cybersécurité. Dans cette perspective, l'objectif français d'instituer un salaire minimum européen au cours des prochains mois, cet objectif paraît cohérent. Deuxième axe, mieux informer sur l'Europe. Les Français se disent mal informés sur le sujet et la méconnaissance, on le sait, entretient les peurs et les fantasmes. Il n'est qu'à comparer par exemple avec les journaux télévisés de la ZDF en Allemagne. Les sujets européens sont beaucoup plus présents chez nos voisins. Il y a une sacrée marge de progression dans les médias français, même si pour le coup, sur les chaînes de Radio France, on se bouge quand même depuis un moment. Enfin, troisième préconisation de ce rapport, pas la plus simple à mettre en œuvre. La France, que ce soit son gouvernement ou sa population, doivent cesser de regarder l'Europe comme un instrument qui sert exclusivement l'intérêt français. Une projection de notre ambition, ou plutôt de la nostalgie de notre grandeur. Ça conduit à traiter nos voisins avec arrogance, et du coup ça les rend méfiants vis-à-vis des projets de Paris, donc c'est contre-productif. Soyons plus humbles. L'humilité est parfois le meilleur moyen d'avoir de l'influence.
Et ben voilà, j'en profite d'ailleurs pour dire que tout le 18-20 se déplace à Bruxelles justement pour parler d'Europe et cette présidence française. Absolument, ce sera mercredi prochain, Jean-Marc. Le monde d'après, vous revenez dès demain. Merci beaucoup. Et la suite ce soir, c'est le journal d'Hélène Philly. Derrière, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, n'échangez rien.